Chapitre 15. Boîte. Marly rêva d'Alain, à l'aube dans un champ de fleurs sauvages, qui lui tenait la tête, puis la caressait et lui brisait la nuque. Elle restait là, immobile, tout en sachant ce qu'il faisait. Il l'embrassait partout. Il lui prenait son argent et les clés de sa chambre. Les étoiles étaient désormais immenses, fixées au-dessus du pré aux couleurs vives, et elle sentait encore ses mains sur son cou. Elle se réveilla dans l'odeur du café matinal, vit les carrés de soleil éclairer les livres posés sur la table d'Andrea, puis entendit la toux familière et réconfortante de son ami qui allumait sa première cigarette, au plus proche brûleur de sa cuisinière. Elle dispersa les sombres couleurs du rêve et se redressa pour s'asseoir sur le canapé d'Andrea, serra la couette rouge foncée autour de ses genoux. Après Gnas, après la police et les journalistes, elle n'avait jamais rêvé de lui. Ou, si elle l'avait fait, pensa-t-elle, elle avait d'une manière ou d'une autre censuré les songes, les avait effacés avant de se réveiller. La matinée était déjà chaude, mais elle frissonna et se rendit dans la salle de bain. Elle ne voulait plus rêver d'Alain. Paco m'a raconté qu'Alain était armé lorsque nous nous sommes vus, dit-elle tandis qu'Andrea lui tendait la tasse en émail bleu remplie de café. Vraiment ? Andrea coupa l'omelette en deux et en glissa un morceau dans l'assiette de Marly. Quelle idée bizarre ! Ce serait comme donner une arme à un pingouin. Elles éclatèrent de rire. C'est pas du tout son genre, dit Andrea. Il serait capable de se tirer dans le pied au beau milieu d'une grande tirade sur l'état de l'art et le tarif de l'addition. Alain est un gros connard, mais c'est pas nouveau. Si j'étais toi, je m'inquiéterais un peu plus de ce Paco. Qu'est-ce qui te prouve qu'il bosse bien pour Virec ? Elle prit une bouchée d'omelette et s'empara du sel. « Je l'ai vu. Il était là dans la reconstruction de Virec. Tu as vu quelque chose, rien qu'une image, celle d'un enfant, qui ressemblait à cet homme. » Marly regarda Andrea manger sa moitié d'omelette et laissa la sienne refroidir dans son assiette. Comment pouvait-elle expliquer l'intuition qu'elle avait eue en partant du Louvre ? La conviction que quelque chose l'entourait désormais, la surveillait de près. Mais sans la déranger, qu'elle était devenue le point central d'au moins une partie de l'empire de Virec. « C'est un homme très riche, » expliqua-t-elle. « Virec ?» Andrea posa sa fourchette et son couteau sur l'assiette et leva son café. « Tu m'étonnes. À en croire les journalistes, c'est l'homme le plus riche du monde, carrément. Aussi fortuné que certains Aibatsu. Mais le problème, en fait, c'est est-ce qu'il s'agit encore d'un individu ? Comme toi ou moi ? Et la réponse est non. Tu ne manges pas ? Marly se mit à couper machinalement des morceaux d'omelette tiède, tandis qu'Andrea poursuivait. « Tu devrais jeter un œil au manuscrit sur lequel nous bossons ce mois-ci. » Marly, qui mâchait, haussa des sourcils interrogateurs. « C'est l'histoire des clans industriels en orbite haute, écrite par un type de l'université de Nice. On y trouve ton Virec, d'ailleurs. Il est cité comme contre-exemple, ou plutôt comme un genre d'évolution parallèle. » Le Niçois s'intéresse au paradoxe de la richesse individuelle à l'ère des grandes entreprises. Pourquoi elle existe encore ? La fortune, je veux dire. Il considère les clans orbitaux, les gens comme les Tessier Hpoul, comme une variante très tardive du motif traditionnel de l'aristocratie. Tardive parce que le modèle de l'entreprise ne laisse guère de place à une aristocratie. Elle posa sa tasse dans son assiette et la rapporta dans l'évier. En fait, en te le racontant, je m'aperçois que ce n'est pas super intéressant. Il y a pas mal de passages sans saveur sur la nature de l'homme des masses, avec des majuscules, l'homme des masses. Il adore les majuscules, pas un grand styliste. Elle ouvrit le robinet et l'eau siffla à travers le filtre. Mais il raconte quoi sur Virec ? Si je me rappelle bien, et je n'en mettrai pas ma main au feu, il explique que Virec est une plus grosse anomalie que les clans industriels en orbite. Eux traversent les générations et ils font en général appel à la médecine, cryogénie, manipulation génétique, divers moyens de combattre le vieillissement. La mort d'un membre du clan, même d'un membre fondateur, n'entraîne pas de crise au sein de l'entreprise. Il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. La différence entre un clan et une entreprise, toutefois, c'est qu'on n'est pas obligé de se marier pour entrer dans une grosse firme. Mais il faut signer un contrat, Andrea haussa les épaules. Ça s'apparente plus à un bail. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il s'agit de sécurité de l'emploi, en fait. Mais quand on erre, Virec mourra. Lorsqu'ils n'auront plus assez de place pour agrandir sa cuve, j'en sais rien. Il manquera un centre logique à ses affaires. À ce stade, d'après le Niçois, Virek & Company se fragmentera ou mutera pour devenir, dans ce cas, une entreprise avec un nom différent, véritable multinationale qui, comme les autres, sera composée d'hommes des masses avec des majuscules. Elle frotta son assiette, la rinça et la mit à sécher sur l'égouttoir en pain près de l'évier. Il trouve cela dommage parce qu'il ne reste plus beaucoup de gens capables de se projeter jusqu'aux limites. Les limites ? Les limites de la foule ! Nous sommes perdus au milieu, toi et moi. Enfin, moi surtout. Elle traversa la cuisine et posa les mains sur les épaules de Marley. Tu vas devoir rester prudente. Tu es déjà beaucoup plus heureuse et je me rends compte que j'aurais pu tout aussi bien arranger ça moi-même. Il m'aurait suffi d'organiser un petit déjeuner avec ton salaud d'ex. Pour le reste, je n'en suis pas si sûr. Je crois que la théorie de notre chercheur ne tient pas la route, car de toute évidence, Virek et les siens sont déjà très éloignés de l'humanité. Il faut que tu fasses très attention. Puis, elle embrassa Marley sur la joue et partit pour son travail d'éditrice adjointe dans le domaine archaïque, mais conservant un certain cachet, des livres imprimés. Marley passa la matinée chez Andrea avec le Brown, à regarder les hologrammes des 7 œuvres, toutes extraordinaires à leur façon. Mais elle revenait pourtant toujours sur la boîte que Virek lui avait montrée en premier. « Si j'avais l'original ici, se dit-elle, que je retirais le verre et que j'en notais un par un les objets qu'elle contenait, que resterait-il ? Des choses inutiles. Un cadre vide, peut-être une odeur de poussière. » Elle s'allongea sur le canapé, le Brown posé sur le ventre, et regarda l'intérieur de la boîte, qui souffrait. Il lui semblait que la construction évoquait parfaitement quelque chose, une émotion qui n'avait pas de nom. Elle passa les mains à travers l'illusion brillante, suivit la longueur de l'os aviaire cannelé. Elle était persuadée que Virek avait déjà demandé à un ornithologue d'identifier l'oiseau d'où venait cet os d'aile. Et il serait possible de dater très précisément chaque objet, imaginait-elle. À chaque onglet d'Holofiche contenait également un rapport détaillé sur l'origine de chaque élément. Mais elle avait jusqu'ici choisi délibérément de ne pas les ouvrir. Mieux valait parfois, lorsqu'on approchait le mystère de l'art, garder un regard enfantin. Les gamins voyaient des choses qui étaient trop évidentes, trop flagrantes à l'œil exercé. Elle posa le Brown sur la table basse près du canapé et se rendit jusqu'au téléphone d'Andrea pour vérifier l'heure. Elle devait retrouver Paco à 13 heures pour discuter de l'organisation du paiement d'Alain. Son ex lui avait dit qu'il l'appellerait chez Andrea à 15 heures. Lorsqu'elle entra le numéro de l'horloge, un résumé automatique des infos satellites apparut sur l'écran. Une navette de la JAL s'était désintégrée pendant sa rentrée dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien. Des enquêteurs de l'axe métropolitain Boston-Atlanta avaient été envoyés examiner le site d'une explosion dévastatrice et visiblement gratuite dans une banlieue résidentielle morne du New Jersey. Des miliciens supervisaient l'évacuation du quart sud de la Nouvelle-Beaune suite à la découverte par des ouvriers du bâtiment de deux ogives remontant à la guerre et peut-être équipées d'armes biologiques, et des sources officielles en Arizona niaient les accusations mexicaines concernant l'explosion d'un petit engin nucléaire près de la frontière du Sonora. Puis le résumé reprit au début et l'incendie mortel attaqua de nouveau la simulation de la navette. Elle secoua la tête, appuya sur un bouton. Il était midi. L'été était arrivé. Le ciel, devenu chaud et bleu au-dessus de Paris, et l'odeur du bon pain et de tabac brun la fit sourire. Elle avait désormais moins l'impression d'être observée, tandis qu'elle marchait du métro à l'adresse que Paco lui avait donnée. Faubourg Saint-Honoré. Il lui semblait la connaître, une galerie, se dit-elle. Oui, la galerie Roberts. Appartenant à un Américain qui en possédait également 3 autres à New York. Cher, mais un peu passé de mode. Paco l'attendait près d'un immense panneau recouvert de centaines de petites photographies, comme celles que produisaient les vieilles machines dans les gares, et collées avec une épaisse couche de vernis mal répartie. Elles semblaient toutes représenter des jeunes filles. Par automatisme, elle remarqua le nom de l'artiste et le titre de l'œuvre. « Lisez-nous le livre des noms des morts. J'imagine que vous comprenez ce genre de choses », dit l'Espagnol sur un ton abattu. Il portait un costume bleu onéreux dans le style businessman parisien, une chemise bleue en tissu fin et une cravate qui paraissait anglaise, probablement de chez Charvet. Il ne ressemblait plus du tout à un serveur et avait un sac de caoutchouc noir nervuré sur l'épaule. « Comment ça ? » dit-elle. les noms des morts, et il désigna le panneau de la tête. Vous vendiez ce genre de choses. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai parfois l'impression que tout ceci, cette culture, n'est qu'un canular, une ruse. Toute ma vie, j'ai servi Seigneur d'une façon ou d'une autre, vous voyez. Et j'ai connu de bons moments au cours de ma carrière, des triomphes. Mais chaque fois qu'il m'a impliqué dans ce genre d'affaires, j'ai toujours eu du mal. Il est la fortune incarnée, le monde est plein d'objets de grande beauté, et pourtant, il achète. Il haussa les épaules. « Vous avez donc des goûts arrêtés ?» Elle lui adressa un sourire. « Pourquoi avez-vous choisi cette galerie pour notre rendez-vous ?»« L'agent de Seigneur a acheté une des boîtes ici. »« Vous n'avez pas lu les historiques que nous vous avons fournis à Bruxelles ?»« Non, » dit-elle. « Cela risquerait d'interférer avec mon intuition. Herr Wirek me paye pour mon intuition. » Il leva les sourcils. « Je vais vous présenter Picard, le gérant. Il pourra peut-être s'occuper de votre intuition. » Il lui fit traverser une pièce, puis une porte. Un Français corpulent et grisonnant qui portait un costume froissé en velours côtelé parlait dans le combiné d'un téléphone. Sur l'écran de l'appareil, elle vit des colonnes de lettres et de chiffres. Les cours du jour de la Bourse de New York. « Ah !» dit l'homme. « Esteves, pardon, j'en ai pour un instant. » Il sourit d'un air contrit et revint à sa conversation. Marley regarda les cours. Pollock baissait de nouveau. C'était l'aspect de l'art qu'elle avait le plus de mal à comprendre. Picard, s'il s'agissait du nom de l'homme, parlait avec un courtier de New York pour acheter un certain nombre de points de l'œuvre d'un artiste précis. Un point pouvait être défini de différentes manières, selon le mode d'expression choisi. Mais elle était presque certaine que Picard ne verrait jamais les œuvres qu'il achetait. Si l'artiste bénéficiait d'un statut suffisant, les originaux étaient probablement rangés au fond d'une caisse dans un coffre, où personne ne les voyait. Des jours ou des années plus tard, Picard décrocherait peut-être ce même téléphone pour demander au courtier de vendre. La galerie de Marly proposait des originaux. L'activité ne rapportait guère, mais possédait un attrait viscéral. Et bien sûr, il restait la possibilité d'avoir de la chance. Elle avait cru à une aubaine lorsqu'Alain avait fait en sorte que le faux Cornel apparaisse. Merveilleuse et accidentelle découverte. Une ligne du tableau des courtiers était consacrée à Cornel et ses points valaient très cher. « Picard, » dit Paco comme s'il s'adressait à un serviteur. « Voici Marly Krouchkova. Signor l'a engagée sur l'affaire des boîtes anonymes. Elle aimerait vous poser des questions. « Enchanté, » dit Picard avec un sourire chaleureux. Mais elle crut déceler un léger plissement de ses yeux marrons. Il essayait très probablement d'associer son nom à un scandale assez récent. « Apparemment, c'est votre galerie qui se serait occupée de la transaction. »« Oui, » dit Picard. « Nous avions exposé l'œuvre dans nos salles de New York et certains voulaient déjà l'acheter. Nous avons tout de même décidé de la montrer à Paris. » Un grand sourire. « Et l'achat par votre patron nous a confirmé que nous avions fait le bon choix. Comment va Herr Wirek, Esteves ? Nous ne l'avons pas vu depuis plusieurs semaines. » Marly jeta un bref coup d'œil à Paco, mais son visage sombre resta calme, contenu. « Seigneur va très bien, il me semble, » répondit-il. « Excellent !» se réjouit Picard avec un peu trop d'enthousiasme. Il se tourna vers Marly. « Un homme merveilleux, une légende, un grand mécène, un immense érudit. » Marly crut entendre Paco soupirer. « Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, où votre succursale new-yorkaise s'est procuré l'œuvre en question ?» Le visage de Picard se décomposa. Il se tourna vers Paco avant de revenir vers Marly. « Vous l'ignorez ? Ils ne vous ont rien dit ? Pourriez-vous me répondre, s'il vous plaît ?»« Non, » dit Picard. « Désolé, mais c'est impossible, parce que nous ne le savons pas. » Marly le considéra. « Excusez-moi, mais je ne vois pas comment c'est possible. » « Elle n'a pas lu le rapport, Picard. Racontez-lui. Ce sera bon pour son intuition si elle l'entend de votre bouche. » Picard adressa un regard étrange à Paco, puis reprit contenance. « D'accord, » dit-il. « Avec plaisir. »« Vous y croyez, vous ?» demanda-t-elle à Paco lorsqu'ils sortirent pour retrouver le faubourg Saint-Honoré et le soleil estival. La foule était en majorité composée de touristes japonais. « Je me suis moi-même rendu dans l'étendue. » dit Paco, pour m'entretenir avec tous les participants. Roberts n'a conservé aucun papier concernant l'achat, alors que, d'habitude, il n'est pas plus secret que les autres marchands d'art. Et sa mort était accidentelle. Il posa sur son nez des lunettes Porsche à verre miroir. Pour autant qu'on le sache, précisa-t-il, nous n'avons aucun moyen de déterminer comment ni où il s'est procuré l'œuvre. Nous l'avons localisé ici il y a 8 mois et toutes nos tentatives de remonter sa piste s'arrêtent avec Roberts, décédé depuis 1 an. Picard a oublié de vous dire qu'ils ont vraiment failli la perdre. Roberts la gardait dans sa maison de campagne avec certaines autres pièces que ses héritiers ne considéraient que comme de simples curiosités. L'ensemble a presque été vendu aux enchères. Parfois, je me dis qu'il aurait mieux valu. Ces autres pièces, demanda-t-elle en marchant près de lui. C'était quoi ? Il sourit. Vous imaginez bien que nous les avons recherchées. Il s'agissait... Il fronça alors les sourcils en exagérant la difficulté de s'en souvenir. De simples exemples d'art folklorique contemporain. Robert s'était connu pour s'intéresser à ce genre d'objet ? Non, mais à peu près 1 an avant sa mort, nous savons qu'il a fait une demande d'adhésion à l'Institut de l'art brut ici, à Paris, et s'est arrangé pour devenir un mécène de la collection Eichmann à Hambourg. Marly acquiesça. La collection Eichmann ne rassemblait que des œuvres de psychotiques. « Nous sommes à peu près sûrs, » poursuivit Paco, en lui prenant le coude et en la guidant pour emprunter une rue transversale, qu'il n'a pas tenté d'utiliser leurs ressources, sauf en passant par des intermédiaires. Ce qui nous paraît peu probable. Signor, évidemment, a engagé plusieurs dizaines de chercheurs pour examiner les dossiers de ces deux institutions, sans succès. Expliquez-moi pourquoi Picard pense avoir vu Herr Wiereck récemment. Comment est-ce possible ? Signor est très riche, Signor peut se manifester de bien des façons. Il la conduisit alors dans une sorte de grange décorée de chrome et que des miroirs, des bouteilles et des jeux d'arcade faisaient scintiller. Les glaces ajoutaient une profondeur factice à la pièce. Dans le fond, elle voyait le reflet du trottoir, des jambes, des piétons et de l'éclat du soleil sur un enjoliveur. Paco fit un signe de tête à un homme qui paraissait endormi derrière le bar et prit la main de Marly pour l'emmener au milieu des tables en plastique ronde et rapprochée. Vous pouvez répondre à Alain d'ici, dit-il. Nous nous sommes débrouillés pour transférer son appel depuis l'appartement de votre ami. Il tira une chaise pour elle, un geste à la fois poli et professionnel qui lui fit se demander s'il avait vraiment été serveur. Puis il posa son sac sur la table. Mais il verra que je n'y suis pas, dit-elle. Si je coupe la vidéo, il aura des doutes. Il ne s'en apercevra pas. Nous avons conçu une image numérique de votre visage et le décor correspondant. Nous enverrons cette image à son téléphone. Il prit un élégant appareil modulaire du sac et le posa devant elle. Un écran en polycarbonate, fin comme du papier, se déplia en silence du sommet de l'objet et se rigidifia aussitôt. Elle avait déjà vu un jour un papillon venir au monde et assister à la transformation de ses ailes encore humides. « Comment ça marche ? » demanda-t-elle en touchant l'écran avec prudence. « On aurait dit de l'acier très fin. »« Une des nouvelles variantes du polycarbonate ? » expliqua-t-il. « Un produit masse. » Le téléphone ronronna discrètement. Il le plaça avec encore plus de précaution devant elle, s'écarta vers l'autre bout de la table et dit « À vous de jouer. N'oubliez pas, vous êtes chez vous. » Il se pencha en avant et appuya sur un bouton recouvert de titane. Le visage et les épaules d'Alain emplirent le petit écran. L'image avait l'aspect sale et mal éclairé d'une cabine publique. « Bonjour, ma chère, » dit-il. « Salut, Alain. »« Comment vas-tu, Marly ? J'imagine que t'as la somme dont nous avons parlé. » Elle voyait qu'il portait une veste sombre, mais sans discerner les détails. « Ta coloc aurait bien besoin de prendre des cours de ménage, » dit-il comme s'il jetait un coup d'œil par-dessus l'épaule de Marly. « Tu n'as jamais fait le ménage de ta vie. » dit-elle. Il haussa les épaules en souriant. « Chacun ses talents. Tu as mon argent, Marly ?» Elle leva les yeux vers Paco qui acquiesça. « Oui, » dit-elle. « Bien sûr. C'est génial, Marly. Merveilleux. Nous n'avons qu'un petit problème. » Il souriait toujours. « Et lequel ? Mes informateurs ont doublé leur prix. Et je dois donc doubler le mien à mon tour. » Paco hocha la tête. Il souriait lui aussi. « Très bien. » Je vais devoir leur poser la question, évidemment. Il la rendait malade. Elle avait envie de raccrocher. Et ils vont accepter, bien sûr. Où nous retrouvons-nous, alors ? Je rappellerai à 17h, dit-il. Son image rétrécit jusqu'à un unique point bleu-vert qui disparut à son tour. Vous avez l'air fatigué, dit Paco en abaissant l'écran et en rangeant le téléphone dans son sac. Comme si parler avec lui vous donnait un coup de vieux. Ah bon ? Étrangement, elle repensa alors au panneau dans la galerie Roberts, à tous ces visages. Lisez-nous le livre des noms des morts. Toutes les Marly, songea-t-elle, à propos de ces filles qu'elle avait été durant la longue saison de la jeunesse.